Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 avril, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission quotidienne d'actualité locale et associative. Vous pouvez nous retrouver sur le site radiocampusamiens.fr, sur le 87.7 FM et aussi en DAB+. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sonia et d'Aline qui sont allées en reportage à la galerie Totem et de Thomas qui nous racontera sa chronique. Bonjour à tous.
Bonjour.
On commence tout de suite avec vous, Sonia et Aline, et l'interview du photographe Ludo Leleu, ainsi que le témoignage de Mélina et Romuald, deux résidents du Château Blanc de Flixecourt.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la Galerie Totem au 40 Place Notre-Dame à Amiens, en compagnie du photographe Ludo Leleu pour le vernissage de son exposition « Chronique de la vie ordinaire ». Je précise que l'exposition sera visible à la Galerie Totem du samedi 26 avril au samedi 24 mai 2025, de 14h à 18h du mardi au vendredi et de 14h à 17h le samedi. On va commencer par une question sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la photo ?
C'est tout bête en fait, ça part d'un cadeau qu'on m'a fait à ma communion. Je viens d'une époque où on faisait les communions, c'était comme ça, et en fait on m'a offert un Polaroid, et de ce jour j'ai dit je veux être photographe, et à la base je voulais être photographe sportif, donc j'ai complètement changé d'orientation au fur et à mesure, mais voilà, en fait c'est ça, en fait c'est vraiment un cadeau, ça vient d'un cadeau en fait.
Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'envie de photographier, enfin de faire de la photo sportive à la vie quotidienne?
Quand on m'a offert le cadeau, j'avais 11 ans, donc j'étais plutôt sport et tout ça, et puis après j'ai découvert la musique, les concerts, tout ça en fait, les sorties nocturnes et tout quoi, l'adolescence, et puis en fait j'ai commencé à faire des photos dans les bars et tout ça de concerts, et puis petit à petit je me suis lancé là-dedans. J'ai pas voulu en faire mon métier, de faire de la photo de concert, mais c'est juste qu'en fait c'est les rencontres, c'est tout ça, et puis il y a surtout eu un jour où on m'a proposé de faire des photos à la lune, des pirates, et en fait ça a décanté tout le truc en fait quoi, j'ai commencé à la lune, et puis de la lune j'ai fait d'autres choses, et puis en fait involontairement je me suis spécialisé entre guillemets dans de la photo de live et de portraits d'artistes et tout ça quoi.
Alors au départ c'était des ateliers photo dans la résidence au Château Blanc, qui est un foyer de vie Adapei 80 de Flixecourt pour des personnes adultes en situation de handicap psychique. Comment ces ateliers ont débouché sur une résidence artistique ?
En fait le truc, ce qui s'est passé c'est que le Château Blanc avait contacté pour faire une résidence sur un an, faire une immersion. Il se trouve que en fait c'était compliqué à monter en termes de budget et tout ça. Et entre temps, la Lune des Pirates m'a proposé de faire des ateliers au Château Blanc. Donc du coup j'ai accepté, on a commencé les ateliers, et de là j'ai proposé au château et à la Lune de dire voilà, je viens faire des ateliers, pourquoi pas en faire une immersion aussi, je suis là. Plutôt que de rentrer tous les soirs à la maison, je reste là la semaine, et puis on fait l'immersion en même temps, quoi. Du coup, ça a commencé comme ça. On a eu, donc ça a été fait grâce à la Lune, le département, le projet a été reconduit, et puis derrière, il y a eu la DRAC et tout ça, quoi.
Comment est-ce que vous avez vécu ce séjour ?
Comment te dire ? Il y a un avant, un après. C'est parce que moi je suis arrivé avec, je pense que beaucoup de gens seraient arrivés avec ça, avec plein d'images préconçues, de choses, des idées préconçues aussi sur le handicap psychique ou tu vois. Et en fait j'ai fait des rencontres absolument bouleversantes et humainement je pense que c'est la plus belle expérience de ma carrière de photographe et même en tant qu'être humain. Je suis arrivé avec des idées préconçues, par exemple des images de Raymond Depardon qui avait fait un truc sur Sainte Clémente, des choses comme ça. Donc je m'imaginais déjà faire certaines photos et tout ça. Et tout ça était complètement déconstruit quand je suis arrivé. Et puis j'avais plein d'a priori en fait sur ce type de handicap, mais en fait parce que je ne connais pas, en fait je les connais pas, tu vois. Et humainement, la charge émotionnelle a été hallucinante. Je suis pas reparti avec des amis, mais j'ai découvert le métier d'éducateur. J'ai découvert ces pathologies en fait, ces gens. Et puis Et puis en fait, c'est con, mais il y a des moments, je me sentais mieux là-bas que dans ma vie de tous les jours, en fait. C'était un espèce de refuge aussi. Enfin, moi, je l'ai pris comme tel, en fait. Ça a été éprouvant, hein. Ça a été assez difficile les premières semaines, notamment la première semaine, parce que tu découvres les gens et puis en fait ils sont sans filtre, donc ils te balancent des histoires de vie et il faut faire avec. Et bon, derrière, c'est la plus belle expérience de ma vie, ma vie, on va dire professionnelle.
À quoi ressemblait une journée typique pendant ce séjour ?
Ça, c'est la question piège, parce que je te jure que c'est vraiment des journées. Il y a des rituels. Il y a le rituel du. Une journée type, c'est. J'ai pas vraiment de journée type, parce que en fait, les premiers temps, je dormais très peu. C'est-à-dire que j'étais active la nuit. Il se passe rien, mais il peut toujours se passer quelque chose. Donc j'étais avec les veilleurs de nuit. Donc tu t'attends de voir s'il se passe quelque chose. Ensuite, il y a le rituel entre guillemets du petit-déj, où là il y a toujours, en fait, la journée elle est rythmée par trois rituels, et c'est les médicaments, en fait. Il y a vraiment ce passage des médicaments le matin, le midi et le soir. Moi j'étais là le matin, midi et soir pour les médicaments. Je prenais le petit déjeuner avec eux, le repas du midi avec eux, le repas du soir avec eux. La journée après, elle se passe où il y a des temps morts parce qu'il y a des siestes, parce que chacun va faire sa vie à droite à gauche. Et moi je m'étais dit, je ne fais des photos qu'au château, c'est-à-dire je ne les accompagne pas quand ils vont au supermarché ou tout ça. Moi je me concentrais vraiment sur le château. Donc en fait, c'est des journées qui sont assez particulières, qui sont très rythmés à un moment donné, très sans rythme tout un temps, puis ça redevient un rythme. En fait, c'est très particulier à gérer, quoi. Et donc, du coup, j'ai appris à faire des siestes à n'importe quel moment de la journée, à me baser sur eux. Mais non, c'est très, très bizarre, en fait, parce que t'as le matin, tout le monde arrive en même temps, après, ils disparaissent, ils reviennent à un moment donné, le midi pour les médocs et le repas du midi. Puis ils redisparaissent, ils reviennent le soir. Donc la journée, tu essayes de capter un peu qui fait quoi, mais en fait, ils sont beaucoup en chambre. Donc j'avais pas accès aux chambres. Ça a mis longtemps pour que j'accède aux chambres. Et encore, même encore maintenant, j'accède encore très peu aux chambres. Tu vois, c'est vraiment. Et en même temps, c'est très particulier parce qu'à un moment, ils t'ouvrent leur porte et ils te la referment aussitôt.
C'est une expérience que vous aimeriez revivre ?
Pas tout de suite. On va être honnête. Ouais. Enfin, j'aimerais bien continuer, en fait, j'aimerais bien aller plus loin dans la psychiatrie, en fait.
Donc, je reviens sur vos productions. Vous avez réalisé plusieurs séries sur des sujets de la vie quotidienne, comme votre projet photo sur des anciennes stations-service, mais aussi sur la vie quotidienne au sein de la résidence Châteaublanc. Pourquoi avoir choisi d'explorer ces thèmes ?
Les stations-service, on va faire rapide, c'est juste que je trouvais ça intéressant, en fait. Moi, quand j'étais gamin, les stations-service, c'était pas les grands centres commerciaux, tout ça, donc c'était un coin quand même qui était arrivé, il y avait le pompiste, il y avait une proximité, c'était le commerce de village ou de proximité, en fait. Et du coup, je trouvais intéressant de voir une station-service qui devienne une pharmacie comme un Saint-Ladre, ou qui devienne une pizzeria. Et du coup, les jeunes maintenant, les mômes, quand ils regardent ça, ils ne voient pas la station-service, mais ils voient ce que c'est devenu. Et en fait, je trouvais ça intéressant d'une génération à une autre, qu'un même lieu, qu'une même structure devienne un truc complètement à l'opposé, en fait, de ce que c'était. Et puis après, là, sur le cas du Châteaublanc ou quoi, c'est vraiment parce qu'on m'a proposé de le faire. J'y serais jamais allé sinon. Enfin, c'est pas un truc, c'était pas une envie de ma part. Je suis quelqu'un, je pense, de curieux, donc du coup, ça m'a. Évidemment, quand on me l'a proposé, je me suis dit, allez, vas-y, je relève le défi, puis on va voir. Et en fait, je me suis piqué au jeu, parce que j'y suis resté quand même un an et demi, quoi. Enfin, en tout, j'y suis quasiment resté 4 mois du lundi au dimanche. Donc c'est quand même. C'est pas rien.
L'affiche de l'exposition, c'est une photo d'une personne assise faisant un doigt d'honneur et dont on ne voit pas le visage. Pourquoi avoir mis en avant cette photo ?
Alors, ça, c'est. Parce que je ne me voyais pas mettre une photo d'un personnage qu'on puisse identifier ou tout ça, parce que je voulais pas qu'entre eux, il y ait de la jalousie ou un truc comme ça. Et puis c'est surtout, en fait, c'est surtout ça. Le truc, c'est que c'était... C'était un beau pied de nez à ma manière d'avoir abordé le truc au début. C'est-à-dire que je suis arrivé avec des images préconçues, je suis arrivé avec des idées préconçues, je suis arrivé avec plein de choses préconçues et tout. Et je trouvais qu'à la fin, en fait, ils m'ont tellement retourné le cerveau, bouleversé et emmené dans autre chose que bah, c'était un bon fuck, mec. Regarde, on est autre chose que ce que tu pensais qu'on soit. Et je trouvais ça bien. Après, chacun, moi, c'est mon interprétation, donc elle est très personnelle. Et puis après les gens l'interprètent comme ils veulent, mais c'est pas, enfin moi c'était ça en fait, c'est, je suis arrivé tellement avec le truc, putain alors c'est ça la psy, et en fait non pas du tout, donc ouais c'est un gros fuck à mes idées préconçues avec lesquelles je suis arrivé quoi.
L'exposition sera accompagnée d'une création musicale de Noëm Duboil. Est-ce que la musique permet en quelque sorte de raconter les photos de l'exposition? Quel est le lien entre les deux?
Et le lien, en fait, alors c'est surtout le truc, en fait, je me suis aperçu en faisant cette résidence, en y restant là-bas, c'est qu'ils écoutent tous énormément de musique. Et j'avais pas envie de... Enfin, c'était difficile de faire un choix parmi toutes les musiques qu'ils écoutent, parce que c'est extrêmement varié. Et en fait, le piano, ça me trouvait... Je trouvais ça assez... pas consensuel, mais... Je trouvais que c'était un bon moyen d'aborder ces images. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai proposé à Noam. Le truc, ça s'est fait, c'est qu'on a... Il a découvert les... On a enregistré au studio du Label Bleu, en fait. Et il a découvert... Il a joué en direct sur un diaporama sans avoir vu les images avant. C'est vraiment du direct. C'est-à-dire, je lui ai balancé les images. Il a improvisé. Et on a mis... Il n'y a pas que... Enfin, il y a la musique, évidemment, mais il y a des sons du château qu'on a fait avec les résidents, en fait. On a enregistré plein de sons du château. L'ascenseur, les sons de la cafette, enfin, tous les lieux stratégiques. Parce que le château, en fait, c'est 54 résidents. C'est... je ne sais combien de personnes qui travaillent autour. Je ne sais plus, une trentaine. Donc, il y a tout le temps du bruit. Donc, c'était important. Et je ne me voyais pas faire une expo sur ce lieu sans qu'il y ait de son.
D'autres expositions sont prévues pour ce projet ?
Pas pour l'instant, mais j'aimerais bien. Bon, bah ouais. Non, bah, on va voir. Tu sais, pour l'instant, en fait, le truc, c'est dingue, c'est que je ne suis pas encore complètement détaché du projet, en fait. Donc déjà, c'est particulier de les voir au mur, parce que j'ai galéré pour choisir les images et tout ça, parce que j'ai fini il y a un mois et demi, donc je suis encore vraiment dans le projet, et en fait, ouais, j'aimerais bien le faire vivre, ouais. Et il y a un concert, donc là, il y aura les portraits de Mie, et oui, j'aimerais bien que l'expo tourne, ouais.
On est ici avec Méline et Romuald. Bonjour à vous deux, vous êtes tous les deux résidents au château, depuis combien de temps?
Moi, depuis 3 ans, je suis arrivée en février 2022, mais j'ai fait des essais d'abord, et ça tout s'est bien passé, j'ai été admise au château.
Et toi?
Ben moi, ça fait 3 ans aussi, en avril, ça fait 3 ans.
Et ça se passe bien, vous êtes bien là-bas?
On est bien là-bas, on fait des sorties, on fait des activités, c'est pas mal.
Est-ce que vous avez participé à l'atelier photo, du coup, avec Ludo?
Oui, j'ai participé, ça me plaît beaucoup, on a fait beaucoup de découvertes, c'était super sympa.
On a participé à l'activité avec Ludo, on était 6 au départ, mais il y a 2 personnes qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient un peu malades. Et 2 autres qui n'ont pas pu faire l'interview étant timides. Donc, j'avais juste une pensée pour Clémence et Pierre qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et on les remercie tous d'avoir participé aussi. Et vous dites merci de leur part, en fait.
Qu'est-ce que vous faisiez avec Ludo pendant les ateliers photo?
Ben, on prenait des photos de notre quotidien, de ce qu'on faisait dans la vie de tous les jours, et c'était très bien.
Oui, on faisait un peu comme Romuald disait, on faisait des photos de notre vie perso, dans, à l'intérieur du château. Ça consistait aussi dans notre projet aussi, je pense. Notre projet, voilà quoi.
Et vous avez vu les photos là qui sont en train d'être accrochées à la galerie Totem, qui sont accrochées à la galerie Totem. Qu'est-ce que vous pensez des photos? Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces photos accrochées dans une galerie?
Bah moi, ça me fait découvrir un nouveau monde en fait. Quand je vois tout ça en fait, moi j'aime bien. Moi, ça me plaît beaucoup en fait, personnellement. Moi, je continue le projet en fait, ça me plaît en fait vraiment.
Moi, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le teint noir et blanc qu'ont les photos. Je ressens beaucoup de choses quand je les vois. Je suis très ému quand je les vois parce que je connais les personnes, les résidents, donc je suis beaucoup ému.
Et dernière petite question, vous participez aujourd'hui à l'accrochage, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez envie de continuer ça, de continuer le projet avec Ludo, de continuer l'atelier photo ?
Oui, moi oui.
Ah oui, beaucoup. Moi, s'il faut aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Hein. À part si je dois partir pour mon premier appartement, mais sinon je continuerai jusqu'au bout. Hein. Pas de souci. Hein.
Et est-ce que vous pouvez me décrire votre photo préférée de l'exposition ?
Alors moi, ma photo préférée, c'est celle de Julien, où il est dans sa chambre, il fait des gestes comme s'il tenait un instrument imaginaire dans ses bras. Et Julien, il a beaucoup de charisme et j'aime beaucoup cette photo.
C'est celle de Romuald que j'aime beaucoup en vrai. Parce qu'il est rigolo, il a toujours le sourire, hein, ça me fait rire et il fait découvrir plein de choses aux yeux aux autres.
Un mot pour donner envie de venir voir l'exposition ?
Ben, le château vous accueille. Voilà, le château vous accueille.
Merci à vous Ludo Lulu d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que l'exposition sera disponible à la Galerie Totem au 40 Place Notre-Dame du samedi 26 avril au samedi 24 mai 2025 de 14h à 18h du mardi au vendredi et de 14h à 17h le samedi.
emotions. Your love is the answer for every question. And I pray and chant for all communities. Your love is the key. Your love brings a message. Your love is the key. Your love. Do you feel it? Do you hear it? In everything we do, that we go through, remember there is your love. In everything we do, that we go through, remember there is your love. In everything we do, that we go through, remember there is your love.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter Jalov de Nagai. Pour la suite de l'émission, on va maintenant écouter Thomas et sa chronique jeux vidéo.
Absolument, et je vais vous parler de l'état du jeu vidéo dans notre beau pays. Dans le monde international du jeu vidéo, on a tendance à le scinder en trois blocs, les principaux acteurs en termes de création de jeux. Le premier étant évidemment l'Asie, avec la Chine, la Corée, puis en fer de lance le Japon. De l'autre côté du Pacifique, l'Amérique du Nord est toujours un gros producteur de jeux. Et enfin, l'Europe possède beaucoup de scènes émergentes ou installées à différents niveaux selon les pays. Maintenant, niveau national, que pèse notre beau pays dans tout ça ? Eh bien, tout d'abord, en termes de production de jeux vidéo, la France crée beaucoup d'acteurs importants qui gravitent dans le monde du jeu vidéo. Et ce, depuis des années. Des talents qui se dispersent ensuite dans différents studios. Mais pas toujours. De plus en plus, on commence à voir des studios qui se trouvent directement implantés en France. Le plus connu des studios français est évidemment Ubisoft, qui a par le passé créé certaines licences emblématiques comme Rayman ou encore Assassin's Creed. Mais Ubisoft est loin d'être le seul. De plus en plus de studios ont vu le jour et ont su sortir des jeux d'une grande qualité permettant de faire rayonner l'hexagone dans la scène mondiale. Dontnod avec Life is Strange a su créer un nouveau genre de jeu narratif et a su durablement s'installer dans le milieu. Le prouve encore Bloom & Rage, sorti le 28 février dernier, qui reçoit d'assez bonnes critiques. Doit-on encore citer Ankama, le studio papa de Dofus et Wakfu, et qui est toujours présent et toujours actif, et ce depuis 2001. Quantic Dream, le studio de développement français, a lui empilé des jeux basés sur des histoires et des choix différents qui permettent de la modifier, et ce studio a empilé plus de 250 prix divers et variés. Et quel meilleur exemple pour montrer que la scène française est florissante qu'en parlant du très jeune studio Sandfall Interactive qui ce 28 avril a dévoilé son tout premier jeu Clair-Obscur Expédition 33. Ce jeu Made in France a d'ores et déjà reçu des critiques exceptionnelles des joueurs ainsi que de la presse. Grosso modo, la scène française de jeux vidéo en termes de production et de studio va très bien. Cet essor est uniquement dû au travail acharné de nombreux passionnés, et ce dans un milieu pas toujours très sain, que ce soit en termes de travail et en termes de cadence soumis parfois à la limite du supportable. À ajouter à ce climat les charges récurrentes du monde politique, on peut penser par exemple aux déclarations d'Emmanuel Macron qui pendant les émeutes de 2023 qui ont fait suite à la mort de Naël, s'exclamait que le jeu vidéo intoxiquait les jeunes. Malgré ces attaques, le jeu vidéo semble être de plus en plus commun dans le quotidien de nombreux Français. Et quoi de mieux pour finir cette petite chronique qu'un petit peu de stats ? En effet, selon une étude réalisée par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en 2024, 70% des Français et Françaises jouent à minima occasionnellement aux jeux vidéo, avec un temps hebdomadaire d'environ 5 ou 6 heures. Le français moyen est également une joueuse. En effet, le jeu vidéo respecte quasiment parfaitement la parité avec 51% de joueurs pour 49% de joueuses. Et voilà, c'est sur ce petit profilage des gamers et des gameuses que nous allons pouvoir conclure cette petite chronique.
Merci beaucoup Thomas pour ta chronique. Voilà, c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Merci à Aline pour la technique. On se quitte en musique avec I Said de Carré Court. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.